Ô Dieu, c'est toi qui donnes la vie, la respiration et toutes choses à tes créatures. Et nous avons besoin de ton souffle. Nous te bénissons pour cette température. Nous te louons pour ce beau temps qui nous a permis toutes ces activités qui ont pu recréer nos corps. Mais nous voudrions aussi que tu puisses recréer nos âmes, notre vie psychique et surtout notre vie spirituelle. Et c'est pourquoi nous te demandons une grâce particulière ce soir, afin que nous puissions être réconfortés par ta parole, peut-être aussi consolés. Tu sais quels sont les besoins des cœurs, nous les ignorons, mais nous croyons que plusieurs sont venus parce qu'ils pouvaient aussi avoir des problèmes et qu'ils espèrent avoir une réponse. Alors Seigneur, dans ton amour, réponds avec ton intonation, que nous puissions te sentir là, avec toute ta douceur, toute ta compréhension, mais aussi avec ta vérité, et que nous n'ayons pas peur de ta vérité, que nous te laissions opérer en nous par ta parole. Nous croyons à sa puissance et nous croyons qu'elle ne retournera pas ce soir à toi sans avoir produit le pourquoi tu nous l'as donné pour ta seule gloire en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, mes amis, en cette soirée du 19 juillet, nous commençons l'étude verset après verset de ce livre du Cantique des Cantiques qui en contient 117, comme nous vous l'avons fait remarquer ce matin. Un livre de 8 chapitres de 117 versets et même de 1251 mots. La portion que nous vous avons demandé de considérer se trouve dans les 4 versets du chapitre 1er que nous relisons, le cantique des cantiques qui est de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car tes amours sont meilleurs que le vin, tes parfums sont d'agréable odeur. Ton nom est un parfum répandu, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Tire-moi, nous courons après toi. Le roi m'a amené dans ses chambres. Nous nous égayerons et nous nous réjouirons en toi. Nous nous souviendrons de tes amours. Plus que du vin, elle t'aime avec droiture, ou selon une autre version, c'est avec raison que l'on t'aime. Alors mes amis, ce matin, dans notre introduction, nous vous avons dit quelles sont les règles que nous suivons quand nous nous mettons à l'école de Jésus pour lire un livre de la Bible. D'une première lecture de ce livre, comme nous l'avons fait ce matin, quelle impression ressentez-vous? C'est une première question. Et dans ces 4 premiers versets, que vous avez, je l'espère, pu méditer tout en étant dans vos diverses activités sportives ou autres, eh bien, dans ces 4 premiers versets, vous sentez-vous interpellé personnellement par un texte? Si oui, lequel? Et pourquoi? est-ce que vous auriez assez d'humilité et de liberté pour partager ce soir avec nous ce qui vous parle dans ces paroles. Pour un moment donc, la parole est à vous. Et afin que le plus grand nombre puisse s'exprimer, je vous demanderai d'être bref, d'être précis, en touchant si possible un seul point. Alors nous vous écoutons. Oui, nous vous demandons de parler distinctement pour que tout le monde puisse entendre.
Dans verset 4, ça se dit, nous nous égayons et nous nous réjouissons devant à toi. Pour moi, c'est un homme et une femme qui ont une pleine liberté dans le Seigneur.
Oui. Nous nous égayerons et nous nous réjouirons en toi. Pour notre ami, c'est un homme et une femme qui ont une pleine liberté dans le Seigneur. Donc, tu vois dans le Cantique des Cantiques plutôt un chant nuptial, si je te comprends. Un chant d'amour entre deux êtres, homme et femme. Bien. Quelqu'un d'autre? Oui?
Le verset qui m'a appelé, c'est ton nom est un parfum répandu. Je me pose la question, est-ce que ton nom va très bien se manifester moi-même? Est-ce que j'étais un parfum pour les autres? Je m'en prie.
Notre sœur nous dit qu'elle s'est sentie interpellée par le verset qui dit « Ton nom est un parfum répandu ». Et elle s'est posé la question, est-ce que elle-même était un parfum pour les autres? Bien.
Moi, je pense plutôt que... Quand quelqu'un veut plaire à quelqu'un, ce serait plutôt représentatif de l'amour entre un être et un autre être. Mais ici, dans ces textes-là, pour ma part, je pense que ce serait plutôt nous, face à Dieu, de lui plaire, d'interpréter physiquement. Mais disons, pour un être tel que nous sommes, c'est quand même physiquement dans l'intérieur à l'autre. Alors pour Dieu, ce serait aussi dans toute la personne et dans tout son être.
Oui. C'est notre personne tout entière qui doit chercher à lui plaire. Et nous ne sommes pas qu'un corps. Nous sommes esprit, âme et corps. Et c'est là l'homme tout entier. Et si nous voulons plaire au Seigneur, eh bien, c'est aussi dans notre âme et dans notre esprit, mais aussi dans notre corps. Parce qu'il est dit, glorifiez donc le Seigneur dans votre corps. Oui.
Lorsque j'ai lu le verset 2, que me baise le désir de sa bouche, car ses amours sont meilleurs que le vin, j'ai fait une comparaison entre les sentiments qu'on ressent lorsque quelqu'un nous embrasse. Alors, on est content, notre cœur bondit, puis on se sent rempli de joie. Puis lorsqu'on prend du vin, ça peut avoir le même effet aussi. Mais c'est comme si l'amour de Dieu, lorsqu'il nous embrasse, on est encore plus excité, plus empli, plus dans les étourdis que les effets du vin peuvent nous faire.
Mais un vrai étourdissement spirituel, l'extase. C'est bien, merci. Quelqu'un d'autre?
Verset 4, il dit « Tire-moi ». Et dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi », alors de se rapprocher de Dieu.
Oui. Tire-moi, nous courons après toi. Mais c'est comme un aimant, une puissance qui attire. Il vient à notre rencontre, mais il faut aussi qu'il nous tire. Douglas?
J'ai je vois le nom de Salomon qui est fils de David, et je sais que pendant que Jésus était sur la terre, on l'a souvent appelé fils de David. Et c'est un lien que j'ai mis ensemble et que je ne comprends pas encore.
Nous aurons l'occasion de répondre aussi à cela. Salomon, fils de David. Tu as lu cela ici dans l'entête?
Oui.
J'ai lu simplement Salomon. Tu as lu Salomon, mais tu as pensé qu'il était fils de David. Oui, je comprends. Il est fils de David, Jésus, oui. Oui, alors, ça voudrait dire que Salomon représenterait qui? Le Seigneur lui-même. Ah bon. Salomon, ici, représente le Seigneur lui-même. C'est ce que vous devez bien comprendre. Vous ne devez pas penser à la vie qu'a eue Salomon. Mais vous devez penser qu'il y a ici, comme Jésus le disait lui-même, un plus grand que Salomon. Et si Salomon a pu écrire ses paroles, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qui est sorti de son cœur naturel. Parce qu'il n'a pas été un exemple avec les femmes. Mais nous pourrions en dire autant de David, n'est-ce pas, qui a écrit de très beaux psaumes, et ce n'est pas parce qu'il a eu une chute terrible, il a commis adultère, il est devenu même criminel, mais ce n'est pas à cause de cette chute, et même de la gravité de cette chute, que nous devons mettre de côté les psaumes qu'il a écrits. Les psaumes qu'il a écrits, il les a écrits sous la direction du Saint-Esprit. Et ses faiblesses n'entachent pas l'inspiration de Dieu dans les paroles dites par David. Et même nous dirons que Dieu s'est servi, parce qu'il peut tirer du bien, même du mal, il s'est servi de la chute de David pour restaurer au cours des siècles des multitudes d'âmes qui se désespéraient à cause d'une chute. Le psaume 51, qui est appelé dans l'Église romaine le Miserere, a été pour beaucoup une vraie porte de salut. Quand David s'est humilié et a confessé publiquement ses fautes dans le temple de l'Éternel, eh bien, le Seigneur l'a pleinement restauré et a fait de sa confession, justement, une planche de salut pour des multitudes. Puisque Dieu n'a pas refusé un esprit brisé et humilié, il est le même. Et si vous avez passé par une période douloureuse qui vous humilie, ne restez pas sous cette impression et dans un sentiment de culpabilité. David nous dit comment il a été malheureux, parce qu'au psaume 51, nous avons sa confession, mais au psaume 32, nous avons ce qu'il éprouvait avant sa confession. Il était malheureux. Et il nous dit, le bonheur de celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert, le bonheur de l'homme à qui Dieu ne compte pas le péché ni l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Il s'est mis en règle avec Dieu. Il dit, tant que je me taisais, je me consumais, j'étais malheureux. Mais j'ai dit, je te ferai connaître mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité, et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. C'est vraiment merveilleux. De sorte que vous voyez même des fautes de ces hommes de Dieu, eh bien, nous pouvons en tirer encore un bénéfice. Ça ne veut pas dire que nous allons faire les mêmes fautes, hein, parce qu'ils ont souffert. Et Dieu pardonne, mais il y a souvent des conséquences de nos inconséquences qui demeurent. Quelqu'un d'autre? Oui.
Moi, je pense que dans les quatre personnes, dans l'ensemble, c'est qu'ils ne figurent pas l'amour qu'on a avec une femme. Parce que souvent, c'est l'impression qu'on a, c'est que c'est une femme ben, pour un homme ou un homme pour une femme, c'est qu'une femme peut combler un homme. C'est le maximum de l'amour qu'on peut avoir, c'est la chose la plus extraordinaire qu'on peut vivre. Mais en réalité, dans cette figuration-là du livre, c'est comme si. Dans le fond, l'amour de Dieu, c'est vraiment la chose la plus extraordinaire qu'on peut sentir, qu'on peut vivre, qu'on peut toucher, qui peut vraiment combler nos cœurs. Tu sais. Puis, c'est comme si cet amour-là est présent, il est là aujourd'hui, puis on peut tout y toucher. On n'a pas à attendre quelque chose un jour ou quand ça va se produire, mais que c'est vraiment aujourd'hui. C'est un amour qui est accessible. Tu sais. C'est ça que c'est fantastique.
Alors tu dépasses l'interprétation littéraliste pour arriver vraiment à ce que nous appelons l'interprétation allégorique. L'amour de deux êtres figure l'amour que Dieu peut avoir pour l'âme humaine. Hein? C'est bien ça que j'ai compris de ta pensée. Merci. Oui?
Et moi, en prenant ça au verset 4, quand on dit « Nous nous égayerons et nous nous réjouirons en toi, nous nous souviendrons de tes amours jusque divin », je me dis « On a toujours la joie à remémorer les amours des gens qui nous aiment ». Puis ça, il y a un verset qui me revient toujours, c'est « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Puis dans le fond, la bonté de Dieu vaut mieux que tous ces amours qu'on peut avoir sur la terre.
Oui, c'est ce que Dieu t'a montré pour toi. Eh bien, nous sommes reconnaissants que Dieu vous parle individuellement à chacun de vous par ces textes et aussi selon votre état d'âme. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? André.
Moi, le verset qui dit « Le roi m'a amené dans ta chambre », je regarde ça comme qui nous a fait partie de son corps, nous sommes de son corps. Et si nous continuons les autres versets, nous égayons, nous jouirons en toi, nous nous souviendrons tes amours, tu te les aimes, en d'autres mots, en étant partie de son corps à chaque instant, à chaque fraction de seconde, que l'amour est toujours manifesté en nous.
Oui. Parce que nous sommes dans son intimité. Le roi m'a amené dans ses chambres. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Oui.
Ce qui me frappait justement, c'est que.
Tu parles un peu plus fort.
Oui, les chambres, ou notre chambre, c'est l'endroit qui est le plus
intime.
Donc, je veux voir que Dieu veut me faire entrer à ce point-là dans son intimité.
Exactement. Dieu veut nous faire entrer dans son intimité, dans sa chambre, dans ses chambres, dans ses appartements privés. Et c'est quelque chose.
C'est pas nous qui forçons ça.
Non.
C'est lui qui nous amène.
Oui. Parce qu'il nous désire. Il nous voulait pour lui. Oui.
C'est toujours la même chose. Et moi, je vois à peu près deux parties. Je ne sais pas si je me trompe, mais je vois la première partie dans le sens que c'est écrit qu'il me baisse, c'est déjà de sa bouche, donc j'ai un désir d'intimité avec lui.
Oui.
Puis c'est écrit plus loin, tire-moi, nous courons après toi. C'est un désir, je veux aller vers toi.
Oui.
Il y a comme un arrêt, madame. Dans le sens, le roi m'a amené dans ses chambres. Le roi a répondu.
A répondu.
Puis, à partir de là, nous nous égayerons et nous nous réjouirons en toi. Nous nous souviendrons de tes amours plus que divins. Moi, je vois un sens qu'ils l'ont goûté à ta dans ses chambres un peu. Puis que, bon, mais elle t'aime avec joie. Ils ont raison de t'aimer.
Oui, ils ont raison. C'est juste. Et ça édifie nos âmes. Quelqu'un encore? Qui? Rézanne. Présente, pardon.
Moi, je vois encore un peu la
nation. Un peu plus fort,
s'il vous plaît.
toi. Conduis-moi dans ta chambre et rends-nous joyeux, heureux, toutes les deux. C'est vraiment la relation intime qui, avec le Seigneur qu'on peut avoir et puis qui nous rend vraiment heureux. Et c'est vraiment une relation qui en a besoin.
Oui.
On doit chercher l'envie. Et le Seigneur, quoi que le Seigneur aussi amène à ça.
Oui. Encore? Plus fort.
Dans « Nous nous souviendrons de tes amours plus que divins », pour moi, l'amour de Dieu, c'est sa parole. Puis, sa parole me dit comme elle t'aime avec droiture, comme droiture, ça sera une parole de sagesse qui nous amène vers la droiture.
Mm-hmm.
En même
temps que ça nous protège. Oui. Ben, je vois l'amour de Dieu. Merci. Alors, mes amis, ce que le Seigneur m'a montré, c'est que vous n'étiez pas venu ici pour entendre des exposés sur le cantique des cantiques, mais que vous étiez rassemblés pour qu'ensemble nous écoutions Dieu nous adresser sa parole par ses versets. Et je les écoute avec vous, dans la plus grande simplicité et aussi dans l'humilité. Je prends maintenant le verset premier. Le cantique des cantiques. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous vous arrêtez sur ces mots? Vous savez ce qu'est un cantique, et quand il est parlé du cantique des cantiques, c'est pour nous dire que ce cantique-là, c'est le cantique par excellence, comme on dirait le Seigneur des Seigneurs, ou encore le Roi des Rois, ou les cieux des cieux, là où Dieu se trouve, là où aucun astronaute n'a pu parvenir, dans les cieux des cieux. Eh bien, c'est le cantique des cantiques. Et quand nous lisons cela dans ce chapitre, nous pensons immédiatement à d'autres cantiques. Parce que, comme je vous l'ai dit, la règle que nous voulons suivre, c'est que nous allons chercher dans l'Écriture ce qui pourrait éclairer nos textes. Est-ce que vous avez en mémoire d'autres cantiques dans l'Écriture? Il y en a un qui a été chanté sur les bords de la mer Rouge après la merveilleuse délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Et qui a chanté ce cantique? C'est Moïse. Avec qui? Sa sœur Myriam, hein? Alors, vous avez cela au chapitre 15. C'est un des merveilleux cantiques, le cantique de Moïse et de Marie, célébrant la délivrance de l'esclavage du pays d'Égypte. Maintenant, il y en aurait d'autres encore dans le Pentateuque dont nous pourrions vous parler. Mais un tout particulier qui a été chanté par deux personnes seulement, parce que, nous le disions l'autre jour, le cantique de Moïse, il a été chanté par combien de personnes? Il y avait là un cœur d'homme, 600 000 hommes ont chanté ce cantique, plus les femmes et les enfants. Hein. Mais vous voyez, ça devait être bien soutenu. Le cantique de délivrance par un cœur d'homme de 600 000 personnes. Mais il y a des cantiques qui ont été chantés par un nombre bien inférieur, par un homme et une femme. Lequel ? Le cantique de Déborah, pour célébrer la victoire d'Israël sur qui ? Quel général ? Sisra, hein ? Et Jabin, le roi Jabin, dans le chapitre 5 du livre des Juges. C'est aussi un merveilleux cantique. Déborah, la prophétesse, avec Barak, le général israélien, ont chanté ce cantique dans lequel se trouve une strophe ou deux à la louange d'une autre femme qui s'appelait Jaël. Et qui est une des héroïnes d'Israël. Puis, nous pourrions parler aussi d'un autre cantique, qui est en quelque sorte comme une prière. C'est le cantique d'Anne. D'Anne, qu'elle chante à quelle naissance ? À la naissance de Samuel. Tout cela pourrait nous arrêter. Alors, il y a plusieurs cantiques. Quand au roi David, vous savez que les psaumes, la plupart des psaumes, sont des cantiques. Hein. Il en a fait un très grand nombre. Il y a au moins 5 psalmistes. Je ne vais pas vous donner tous ces noms-là. Mais enfin, quand vous lisez les psaumes, vous savez que ce sont des prières ou des cantiques à la louange du Seigneur, mais se réfèrent à un événement extraordinaire dans la vie de ce peuple d'Israël. Quant à Salomon, nous apprenons dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 4, qu'il en a composé combien, ce cher Salomon, de cantiques. Vous vous souvenez ? Chapitre 4, verset 32e. 1005 cantiques. Ça faisait un recueil. Il a composé 1005 cantiques. Mais celui-ci, c'est le cantique des cantiques. C'est celui qui surpasse tout. Et alors, on discute à l'infini dans les cercles théologiques, pour savoir si c'est vraiment de Salomon. Et beaucoup nient que Salomon serait l'auteur du Cantique des Cantiques. Pour nous, qui voulons prendre la parole comme des enfants, eh bien, nous disons qu'il est écrit qui est de Salomon. Et ce n'est pas la vie de Salomon qui nous empêche de croire que Salomon ait pu écrire ce cantique. D'abord, vous vous souvenez que les débuts de la vie de Salomon ont été magnifiques. C'était un jeune homme dont le cœur était tout entier pour le Seigneur. Et c'était un jeune homme qui avait une vie de prière et que Dieu exauçait. Quand Dieu lui est apparu, alors qu'il était si jeune encore et qu'il allait succéder à son père, tout en étant très délicat, n'étant pas un guerrier comme son père, mais plutôt, comme son nom l'indique, un pacifique. Salomon veut dire pacifique. Hein. Salomon, son règne serait un règne de paix. Mais quand le Seigneur lui est apparu et lui a demandé, mais que veux-tu que je te donne ? Et je voudrais vous demander, mes amis, est-ce que vous avez demandé quelque chose depuis le début du camp ? Nous avons commencé en vous disant que le Seigneur disait « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, heurtez, frappez et il vous sera ouvert. » L'avez-vous fait ? Vous pouvez encore le faire et recevoir des réponses merveilleuses, parce que du côté de Dieu, tout est ouvert. Il est disposé à vous combler dans tous les domaines de votre vie, car c'est lui qui vous a fait. Et il sait de quoi vous êtes formé. Il sait que votre force n'est pas la force des pierres. Il sait que vous n'êtes que poussière. Et c'est tellement merveilleux de savoir que nous avons un Dieu plein de compréhension et qui connaît la mesure de nos forces et qui ne nous éprouvera jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. Oui, nous le croyons. Ce cantique est de Salomon, celui qui a demandé à Dieu la sagesse. Donne-moi un cœur sage. Il n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé la longueur de vie. Et Dieu lui a donné tout cela. À un tel point que, puisque tu ne m'as pas demandé la richesse, eh bien tu auras la richesse. Puisque tu m'as demandé la sagesse, eh bien il n'y aura pas un roi aussi sage que toi. Dieu exauce, mais bien souvent, nous ne sommes pas à la hauteur des bénédictions que nous recevons. Et tout en ayant bien commencé, eh bien, nous dégénérons si souvent. Cela nous montre la faiblesse de notre chair et combien nous devons veiller chaque jour sur nous-mêmes et rester dans la dépendance de Dieu et dans l'humilité. Donc, nous prenons ce cantique de la part de Salomon, mais d'un plus grand que Salomon. Et ce verset 2, où nous arrivons, qu'il me baise des baisers de sa bouche, c'est comme un merveilleux portail. Et nous disons que là, nous y voyons déjà la Trinité, comme dans le chapitre 1er, de la Genèse, nous pouvons trouver le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois personnes qui ne font qu'un, et dans d'autres portions. Mais comment trouvons-nous la Trinité ? Qu'il me baise ? À qui ? C'est une prière, ça. C'est une demande. À qui est-elle faite, cette demande ? Et qui concerne-t-elle cette demande? Qu'il me baise, à qui est-ce qu'on adresse la prière? Au Père, à Dieu le Père. Et ce que l'on réclame de lui, c'est qui? C'est un baiser de qui? Quel est le baiser qui peut vraiment nous satisfaire? C'est le baiser du Fils qui est attendu par tout le peuple d'Israël. C'est le désir que ce Messie vienne. Et ce baiser lui-même nous est donné par le Saint-Esprit. Le baiser de Dieu, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais celui qui nous apporte ce baiser, c'est Jésus. C'est le Messie et qui était promis. Alors, vous voyez, dès le premier verset, si nous nous laissons saisir par l'Esprit de Dieu, nous pouvons voir le désir de tout un peuple, puisqu'il est question quand même d'abord d'Israël qui, depuis la chute, nourrit les promesses de Dieu, attend un libérateur. Et ce libérateur doit venir, c'est lui qui doit leur apporter vraiment la parole de Dieu. Et on l'attend, on le désire, et c'est comme si l'on disait, eh bien, tu sais, tu as parlé par beaucoup de bouches, mais maintenant nous voudrions entendre tes paroles par la bouche de ton Fils. C'est Hébreux, chapitre 1er. Et qui nous est révélé, Dieu ayant autrefois parlé au Père, parlé au Père, à la fin de ces jours-ci, nous a parlé dans le Fils. Dans le Fils. Et le Fils est vraiment la bouche de Dieu. Il est la parole de Dieu. Car notre Dieu n'est pas une idole, il a une bouche. Et il parle. Et alors, c'est comme si l'âme pouvait dire, eh bien voilà, tu as parlé par Moïse. Oui, Moïse disait qu'il avait une langue pesante. Nous ne sommes pas pleinement satisfaits par toutes les paroles de Moïse, dont la langue était pesante. Et puis, il a parlé par d'autres. Ésaïe, il a parlé par les prophètes. Ésaïe, mais qu'est-ce qu'il disait, Ésaïe, lui, ses lèvres. Ses lèvres étaient impures. Alors, je veux bien entendre les paroles par Ésaïe, mais j'aimerais mieux encore, plus qu'Ésaïe, plus que Moïse. Je veux bien entendre les paroles de Jérémie, mais Jérémie nous dit, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Et ça, c'est le premier chapitre. Alors, il a parlé par les prophètes, mais à la fin de ses jours, il a parlé par qui? Par son Fils. Alors, c'est vraiment son Fils qui nous apporte le baiser de Dieu, la marque suprême de l'amour. Car le baiser, c'est le signe de quoi? De l'amour, n'est-ce pas? De l'amour, d'un amour plein de tendresse. Souvenez-vous de la signification de chaque mot. Prenez chaque mot dans sa signification. Qu'est-ce que le baiser? Et alors maintenant, nous pourrions parler des heures sur les baisers de la Bible. Souvenez-vous de quelques-uns de ces baisers. Il y a le baiser de la réconciliation, le baiser du pardon. Qui est-ce qui l'a donné? Est-ce que vous avez une image? Le père de l'enfant prodigue. Il coupe son fils de baiser. C'est le baiser du pardon. Une marque d'affection qui dit au fils prodigue que malgré tous ses péchés, il est reçu et il est pardonné. Parce qu'il a reconnu son état. Est-ce que vous l'avez reçu, ce baiser-là? Le baiser du pardon. Et puis, le baiser aussi de la réconciliation. Il y a aussi, maintenant, le baiser de la communion. Ce baiser de la communion que nous désirons avoir avec le Seigneur de plus en plus. Une intimité plus profonde. Et il y a aussi le baiser de l'adieu, le saint baiser. On pourrait élaborer beaucoup sur les baisers dans l'Écriture, mais il y aurait aussi un baiser dont on sera obligé de parler, c'est lequel? Le baiser de la trahison, le baiser de Judas. Vous voyez que vous pouvez tirer des lignes en partant d'un seul mot, du mot baiser. Mais nous voulons maintenant le baiser de sa bouche, de sa bouche. Quelque chose de personnel, une relation tout à fait intime, mais qui est pour toujours. Puis, ton amour vaut mieux que le vin. Quand on connaît l'amour de Dieu, qu'on préfère cet amour à tout, qu'est-ce que c'est que le vin? Le vin, c'est un don de Dieu. Le vin, il est dit qu'il réjouit le cœur de l'homme. Le vin, c'est le symbole des joies naturelles. Le vin, dans l'Écriture, c'est toujours le symbole des joies naturelles. Alors, ça veut dire que l'amour que l'on trouve en Dieu est meilleur que les joies naturelles. Au fond, ce qu'il est, son amour, sa personne, nous le préférons à quoi? À ses dons. Et je me demande si on en est arrivé là. Il y a beaucoup de gens qui recherchent les dons du Seigneur. Mais la personne du Seigneur, est-ce qu'elle vous est chère? Quand on en arrive là, à ce degré de spiritualité, et c'est vous tous qui devez y parvenir, sa personne doit être plus chère que ses dons. Or maintenant, on veut se noyer avec les dons, mais on ne connaît plus sa personne. Sa personne n'est pas chère vraiment à notre cœur. Et tout nous le montre. Tout le comportement des gens du chrétien montre que Jésus n'est pas aimé, lors même que l'on parle sans cesse des dons même de l'Esprit. La personne du Seigneur doit nous devenir infiniment chère et doit devenir pour nous meilleure que tout ce que Dieu lui-même a pu nous donner, car le vin est aussi un don de Dieu. Nous ne méprisons pas les dons de Dieu, loin de là, mais nous lui préférons sa personne. Sa personne. Le donateur est préféré au don. Puis alors, si nous avons le donateur, qu'est-ce qu'il fait le donateur? Il nous fait les dons. Vous comprenez? On ne cherche pas les dons, on cherche le donateur. Et il nous donne les dons, il nous qualifie pour le service. Mais il ne donne jamais des dons pour que nous en fassions une décoration ou que nous nous mettions en avant en disant « j'ai reçu tel don ». Quelqu'un qui a reçu un don, il n'a pas besoin d'en parler, on le voit. Hein? C'est une réalité. Alors, ton amour vaut mieux que le vin. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Que préférez-vous? Les joies naturelles? Bah, c'est ce que beaucoup pensent. Ou bien l'amour du Seigneur? Verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Vous savez que nous avons vu ce matin déjà que les idoles ont un nez, mais ne sentent pas. Notre Seigneur, il a un nez et il respire, il sent. Il ferait l'odeur agréable des holocaustes qui lui étaient offerts en Israël et même avant Israël, au temps de Noé. Quand Noé a offert son holocauste, ses sacrifices, il est dit que Dieu respira une odeur agréable et qui est montée jusqu'à lui. Et c'est là qu'il a dit, maintenant je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme. Et il a donné le signe de cette alliance, l'arc-en-ciel. Alors, les parfums ont, dans le Cantique des Cantiques, comme nous allons le voir, je ne fais qu'une brève introduction, il y a au moins 10 parfums différents dans le Cantique des Cantiques. Et nous aurons l'occasion de voir quels sont ces parfums et ce que signifient ces parfums qui ont une odeur suave, des parfums, tout ce qui se dégage de Dieu, de la personne du Seigneur, a une odeur suave. Est-ce que c'est cela que nous réalisons? Est-ce que nous aimons nous tenir dans la présence de Dieu? Est-ce que nous aimons respirer cette atmosphère du ciel? Ou bien est-ce que nous trouvons nos joies dans cet air pollué du monde? Et il ajoute ton nom. Qu'est-ce que c'est que le nom? Le nom, c'est la personne, hein? Ton nom. Alors, qu'est-ce que le nom du Seigneur est pour vous? Vous savez qu'au travers de toute l'Écriture, depuis la Genèse, les hommes qui attendaient le Seigneur, qui attendaient la réalisation de la promesse, ils désiraient connaître le nom. Le nom de celui qui serait le Sauveur. Le Sauveur était promis dès la chute en Genèse 3, verset 15. Et on attendait le Sauveur. Mais on cherchait son nom. Ainsi Jacob a demandé à l'ange, quel est ton nom? Et l'ange lui a répondu, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il ne l'a pas donné encore là, ton nom. Bien, ce nom que voulaient connaître aussi Manoah et sa femme, les parents de Samson. Et là, l'Éternel a répondu, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alors, vous pourriez élaborer aussi sur tout ce que vous donne son nom. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Mais c'est aussi le nom qui guérit. C'est aussi le nom de celui qui nous rassemble. Nous sommes rassemblés en son nom. Alors, faites une étude, je vous donne seulement des jalons, sur tout ce que nous donne le nom du Seigneur. Il nous donne la guérison. C'est au nom de Jésus que cette personne a été guérie, dit l'apôtre Pierre. C'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel il nous fallait être sauvés. Et ce nom, nous dit l'apôtre Paul, il est au-dessus de tout nom. Et c'est en ce nom que tout genou se ploieront des êtres célestes, terrestres et infernaux. Et un jour, toute langue reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et voyez-vous, ce nom, c'est un parfum qui se répand. Oh, que j'aime cette expression, le nom de Jésus. C'est un parfum qui se répand. Je ne sais pas ce que vous faites du nom de Jésus, mais son nom, je dis, c'est sa personne. Si sa personne est en vous, bien vous devenez la bonne odeur du Christ, comme le dit saint Paul. Nous sommes la bonne odeur du Christ. Une odeur de vie pour ceux qui ont la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui ont la mort, pour les incrédules, n'est-ce pas? C'est pas possible autrement. Vous n'avez pas besoin de parler. Un parfum, ça ne parle pas. Et c'est le premier témoignage chrétien. Nous, nous voulons tout de suite parler. Nous avons rencontré le Seigneur, nous nous sommes convertis, et nous jasons sur notre conversion. Et nous disons ce que nous étions avant, on se noircit encore plus qu'on l'était, puis maintenant, voyez comme je suis. Puis quand on vous regarde, puis quand on vous connaît un peu, on dit, il n'a pas tellement changé. Puis si c'est ça, être converti, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça change de devenir comme elle ou comme lui? Vous savez, c'est cela qui est l'obstacle aux conversions réelles des chrétiens. C'est notre témoignage. Mais si le nom de Jésus était vraiment sacré en nous, le nom béni et saint en nous, eh bien, notre vie répandrait davantage de parfum, le parfum de Christ, et nous attirerions des âmes. Et c'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Oui, il y aurait pour la jeunesse aussi tout un attrait si l'on voyait des vies réellement consacrées et qui sont entièrement données au Seigneur. Mais aujourd'hui, dans les conversions, c'est tellement factice. On dit à ces personnes, tiens, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais dans le monde avant de te convertir? Ben voilà, j'avais ce don-là, je faisais ceci, je faisais ça. Et bien maintenant, ben, tu vas employer ce don que tu as, don purement naturel, hein, pour le Seigneur. Mais c'est pas du tout ainsi concernant le Seigneur. On ne va pas sublimer les dons naturels pour les mettre au service du Seigneur. Il est question d'abord d'être crucifié. Et ça, on ne le prêche pas. Il est d'abord question d'être crucifié complètement. Et puis après, dans une nouvelle naissance, Dieu peut vous donner des dons spirituels, mais qui sont des dons surnaturels, et non pas des dons naturels sublimés. Je ne trouve jamais la sublimation dans l'Écriture. Je trouve la crucifixion. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Quel délivrance! Et alors, il vous donnera des dons qui pourront servir. C'est pas avec les dons que Moïse avait reçus aux écoles égyptiennes qu'il a pu devenir le libérateur d'Israël. C'est quand il a été au bout de son rouleau à 80 ans que Dieu a pu commencer de faire quelque chose avec lui. Parce que avant, Moïse voulait faire quelque chose, il voulait délivrer Israël, mais avec ses capacités, avec sa force. Et il a échoué complètement. Et c'est cela qui nous coule souvent. Bien que le Seigneur veuille nous parler et que nous puissions être de ceux dont la vie attire ces jeunes âmes. Nous aurons l'occasion de les retrouver. Mais maintenant, comme quelqu'un l'a souligné, entraîne-moi. Après toi, nous courons. C'est vrai, nous avons reçu le baiser de sa bouche. Nous sommes convertis. Nous connaissons quelque chose de son amour. Mais qu'est-ce que nous voudrions maintenant? Qu'est-ce que nous sentons? Nous sentons notre faiblesse. Il nous faut le suivre. Et ce n'est pas facile de le suivre. Alors, nous avons besoin que le Seigneur nous tire. Tire-moi, nous courons après toi. Et même, nous pouvons dire ceci, que Jésus a souligné que nul ne venait au Père, nul ne venait à lui, si le Père ne l'attirait. Il a fallu d'abord que le Père vous attire pour que vous veniez à Jésus. Et Jésus vous a sauvé. Et maintenant, c'est lui qui veut vous tirer après lui. Il ne faut pas croire que nous, nous courons aussi facilement. Bien oui, Paul le dit, oubliant les choses qui sont derrière, je cours avec effort vers celles qui sont devant. Mais si le Seigneur n'était pas devant nous pour être notre centre d'attraction, nous tomberions à chaque pas et nous reculerions. Mais s'il est réellement devant nos yeux, il a une puissance d'attraction qui nous tire. Si je marche après lui, c'est parce qu'il me tire. Tire-moi, nous courons après toi. Alors, nous nous mettons à courir. Et ce que je remarque, c'est que quand vous voyez quelqu'un courir, n'est-ce pas, dans la rue, vous êtes presque porté à le regarder pour voir où il va et pourquoi il court. Si vraiment vous courez dans la course qui est devant vous, vous attirerez les regards. Quelqu'un qui court, il attire les regards. Eh bien, que nous courions vers lui et que le Seigneur nous permette d'attirer d'autres âmes dans notre course. Elles viendront avec nous parce qu'elles voient que nous avons un but et que nous courons vers le but. Et ce Seigneur qui a répondu à la prière, qu'il me baise les baisers de sa bouche, ce Seigneur qui est venu nous apporter la parole du Père, bien, il veut nous amener dans son intimité. Une fois qu'il nous attire, c'est pour nous conduire dans ses appartements, dans ses chambres, loin du monde, dans cette intimité absolue avec lui, dans ce tête-à-tête qui est si nécessaire. C'est pour ça que je dis, voyez-vous, dans les réunions, même dans les grandes réunions, c'est pas la réunion qui compte, c'est l'après-réunion. Qu'est-ce que vous faites après une réunion? Qu'est-ce que vous faites après un message? À quoi pensez-vous? Une réunion, c'est pour vous amener en contact avec le Seigneur, pas en contact avec moi, pas en contact avec le prédicateur, en contact avec le Seigneur. Et après, vous devez être seul avec lui, dans une intimité absolu. Et alors, nous connaîtrons la vraie joie. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons en toi, à cause de toi. Nous nous réjouirons en toi. C'est lui qui devient la source de notre joie. Non pas des choses, mais sa personne, sa présence. Et nous nous souviendrons de ses amours. Se souvenir de ses amours. Demain, est-ce que vous n'aurez pas l'occasion de vous souvenir de ses amours? Quelle est la preuve suprême de son amour? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci de donner sa vie, non pas pour ses amis seulement, mais même pour ses ennemis. Dieu constate l'amour qu'il a eu pour nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tes amours, nous nous en souvenons plus que du vin. Toutes les choses de la terre, nous les oublions et nous nous concentrons sur son amour. Elle t'aime avec droiture ou c'est avec raison que l'on t'aime. Il faut de la droiture dans notre amour. Est-ce que nous aimons le Seigneur avec droiture? C'est-à-dire sans compromission. Je me pose la question. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde n'aime pas le Seigneur avec droiture. Parce qu'il est dit que l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean chapitre 2. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amitié du monde, qu'est-ce que c'est? Cette inimitié contre Dieu. Vous ne pouvez pas associer cela. Alors, est-ce que notre amour est un amour droit, un amour de droite? Vous savez, les jeunes, quand ils se donnent au Seigneur, quand ils se donnent jeunes, il y a de la droite. Les jeunes sont absolus. Ils ne sont pas partagés. Eh bien, je demande à Dieu qu'il nous redonne cette droiture d'une première jeunesse où nous avons été saisis par le Seigneur qui nous a attirés à lui et qui a voulu nous faire vivre dans son intimité. Nous voulons prier. Ô Dieu notre Père, nous n'avons fait qu'effleurer ces textes si denses et qui contiennent tant de vérités précieuses qui vont faire leur chemin dans nos cœurs. Que tu puisses nous dire toi-même ce que sont tes baisers, cette effusion d'amour qui vient de toi et qui est meilleure que tout ce que le monde peut donner, toutes ces joies naturelles. Que dans ta grâce, nous puissions aussi être de ceux qui respirent tes parfums et qui sont imprégnés du parfum de celui qu'il fréquente. Que tu nous donnes d'aimer te fréquenter et que notre lien avec toi ne soit pas occasionnel, mais que nous n'ayons plus qu'un désir de vivre toujours en ta présence. Et que cela soit tellement connu que les âmes qui dans ce monde n'ont pas trouvé le bonheur n'ont bu qu'à des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau, qu'elles puissent discerner que nous connaissons la source des eaux vives et qu'elles puissent venir à toi. Continue de nous tirer à toi dans ce camp pour que lorsque nous retournerons dans nos activités, nous puissions continuer de courir après toi. Après quoi courons-nous? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, disait le prophète. Et si c'est Baal, courez après lui. Seigneur, donne-nous de nous poser la question ce soir. Après qui courons-nous? Après quoi est-ce que je cours dans ma vie personnelle ce soir de juillet 1986? Qu'est-ce qui est mon but? Parle, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Et prépare-nous pour la journée de demain, afin qu'elle marque nos vies et que nous puissions nous souvenir de toi, de tes amours, d'une façon ineffable qui nous pousse à une véritable adoration. Pour la gloire du Père au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.